moment avec.
Bonjour Rirolan, et oui, un samedi à la cool et on se pose pour parler avec des artistes. Aujourd'hui, on vous propose de passer un moment avec Mossiman, le Suisse que l'on a découvert avec sa victoire de la saison 7 de la Star Academy en 2007. Et oui, ça date déjà. Un artiste multi-casquette, DJ, producteur, chanteur, musicien qui produit ses remixes, qui produit ses tracks pour lui, mais également pour les autres, et qui proposera le 10 mai à Liège un film témoignage sur la création de son show de 2022 à l'Olympia. Et la première question que j'avais envie de lui poser, c'est: est-ce qu'en 2024, un artiste a-t-il toujours besoin de créer non-stop du contenu pour garder le lien avec son public?
C'est une question qui est déjà tout de suite d'entrée un peu difficile, un peu deep. Je crois qu'il y a une partie de moi qui en manque constamment, si tu veux, d'activité, de matière cérébrale, de rencontres, en manque de public aussi. Et donc j'ai cette volonté, et je crois que je le ressens. Bon, vous allez dire que c'est un peu, c'est ce que tous les artistes disent ça quand ils arrivent en Belgique, mais je crois que c'est encore plus présent avec la Belgique. J'ai une histoire, je dis toujours que je suis un franco-suisse au cœur belge, au cœur liégeois même. Mais c'est juste que j'ai eu un coup de cœur pour ce pays, pour les gens, pour la culture, la manière d'éduquer. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de particulier en Belgique qui fait que, quelque part, je crois que je me cherche un peu toutes les excuses à chaque fois pour revenir en Belgique. Alors là, il y a eu ce documentaire, évidemment, qu'on a fait sur l'Olympia, où je me souviens d'ailleurs, si vous regardez le documentaire, il y a dedans tout un quart de Belges qui se déplacent pour venir à Paris, pour participer à l'Olympia. Et puis, il y a aussi la volonté de faire des choses un peu différentes. Là, j'organise quelque chose le 11 mai prochain du côté du Reflector. Je suis extrêmement heureux parce que c'était complet des mois à l'avance. Et du coup, je peux plus faire le malin. Ma manager m'a dit: tu arrêtes d'inviter des gens maintenant, on n'a plus de place, c'est pas possible. Et on crée un concept un peu particulier qui est de jouer en ce qu'on appelle en mode boiler room, c'est-à-dire au milieu des gens, ce qui rend l'activité et le moment un peu particulier. Et donc ça fait quand même une longue réponse pour une petite question, tu m'excuses. Mais voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'aime beaucoup venir ici.
Il y a évidemment ce documentaire, je vais prendre plusieurs étapes. On va revenir en arrière. Avant la Starac, tu as même fait un autre casting pour une autre émission. Et là aussi, ça a été vraiment un tournant important. Voilà, je pense que là, c'était un déclencheur. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette anecdote? Je ne pense pas que tu la racontes souvent, où tu as fait un tout premier casting et puis tu es retourné dans ta discothèque. Puis alors, il y a eu le casting de la Starac.
Je ne le raconte jamais, cette anecdote. Je crois vraiment que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Juste avant, une année ou deux avant de participer à la Starac, je fais le casting de La Nouvelle Star, qui était une émission sur M6. Et puis, je suis tellement dégoûté du haut de mes 17 ans, de la relation que j'avais pu avoir avec ce programme, de la déception aussi, quoi. J'étais tellement déçu du... je crois que c'est un truc de la jeunesse, les premières épreuves de la vie, quoi. J'avais été très déçu de ne pas être pris, et puis j'avais dit, voilà, j'arrête tout ça. Et je m'étais j'étais parti en Espagne du côté d'Ibiza pour mixer dans un club. Et je me suis fait rattraper un an plus tard par une émission qui était la Starac, parce que j'ai rencontré du coup un touriste qui était là à cette soirée et qui a dit mais on n'a jamais eu de DJ qui chante à la Starac, ça serait quand même fou que tu fasses le casting. Moi, dégoûté de mon expérience précédente, j'avais dit alors c'est certainement pas, je mets plus un pied dans un casting, c'est terminé. Et puis à la fin de l'été, j'avais vraiment plus d'argent, c'était compliqué avec ma maman, on savait pas trop ce qu'on allait faire. Donc j'ai accepté de faire le casting. J'ai un peu fait cette émission pour les mauvaises raisons, en tout cas pour aider ma mère, mais à l'origine, si tu veux, c'était pas quelque chose d'artistique. Je me disais pas, tiens, je vais essayer de prouver qui je suis en tant qu'artiste, etc. Et je me suis complètement fait prendre à mon propre piège, parce que j'ai adoré faire cette émission, j'ai adoré participer à la Starac, c'était un honneur de la gagner, de voir que les gens avaient voté pour moi. Mais donc c'est vrai que l'anecdote de La Nouvelle Star, peu de gens le savent.
C'est quoi qu'on en retire justement, parce que c'est une claque, mais on rebondit. C'est un beau message, je trouve, parce que vraiment, c'est se dire, ben voilà, y a des leçons à retirer aussi, même des échecs, en fait. Et du fait que on peut continuer, et la preuve en est, quoi. Tu es là maintenant.
Bien sûr, c'est exactement ça. C'est de ne jamais rien lâcher, de se faire confiance, de se dire que tout arrive à un moment, qu'on a tous le droit à un autre moment, quel que soit nos rêves. Je cite souvent mon père en exemple, parce que son rêve, le rêve de sa vie, lui, c'était d'ouvrir une crêperie dans son petit village. Et donc, dans notre village en Suisse allemande, on est 72 habitants et on a notre petite crêperie. Et c'était le rêve de sa vie. Donc, il a économisé de l'argent toute sa vie en faisant des crêpes sur les marchés, sur une petite crêperie. crêperie ambulante en se disant un jour j'aurai ma crêperie. Et je me souviens dans sa petite crêperie, il avait mis une photo, tu sais, une photo d'une crêperie en se disant un jour je l'aurai. C'est ce qu'on appelle les tableaux de visualisation. Alors moi depuis dans ma cuisine, que ce soit en Suisse ou que ce soit dans mes bureaux à Paris, j'ai des photos des Zénith, des photos de David Guetta, en me disant ok ça c'est mes objectifs, ça c'est ce que je veux, j'ai un drapeau des USA, tu sais, d'Amérique. Donc j'essaie de projeter et c'est vrai que la Nouvelle Star m'avait aidé sur ça parce que c'était un peu un choc à mon âge, à mon jeune âge. Et en même temps, je crois que ça m'a permis de bien rebondir.
Ce samedi, passez un moment avec.
On espère que vous passez un bon moment avec nous. En tout cas, on a vraiment passé un moment cool en compagnie de Mossyman pour cette interview. On le connaît avec ses différentes casquettes, mais ce qui est vraiment important pour lui, c'est la musique électronique et son rôle de DJ producteur qui lui tient à cœur. Et son premier Olympia en tant que chanteur, juste après la Star Academy, lui a fait prendre conscience de pas mal de choses et ça a influencé également son second Olympia en tant que DJ. Et ça, c'était en 2022.
Ça a été un moment important parce que au cours de sa vie, on comprend plein de choses, on évolue évidemment, mais ce moment particulièrement de cette Olympia, donc je crois que c'est en 2012, où je monte sur la scène, c'est sold out depuis des mois, et j'ai mon nom en lettres rouges, c'est assez incroyable comme moment, et j'ai une espèce de... c'est vraiment symptomatique, une espèce de boule dans le ventre où je me dis « Waouh, je suis en train de mentir à tous ces gens, je suis en train de me mentir à moi-même, c'est pas ce que je veux, je rêvais pas du... J'ai réalisé quelque part que je ne rêvais pas du succès que j'étais en train d'avoir. Et j'étais en train d'acquérir quelque chose qui me dépassait complètement et qui était au-delà de ce dont je rêvais. Mais je le savais pas. Moi, ce dont je rêvais, c'était 500 personnes. Et ce dont je rêvais, c'est ce qui se passe le 11 mai prochain au Réflecteur à Liège. C'est 400 personnes, ça sent un peu la transpi, ça joue pendant 4 heures, de la techno, de la tech house, on prend plaisir, on danse, on partage quelque chose. Là où dans un concert plus traditionnel, comme j'avais vécu justement à l'Olympia, il y a quelque chose de très formel. Il y a quelque chose où tu commences ta chanson, et puis les gens connaissent les paroles, et puis ils ont les briquets en l'air, les flashs de téléphone en l'air, etc. etc. Il y a quelque chose de formel où on a du mal à surprendre l'audience. Et c'est exactement ce contre quoi je me bats, quoi, en tant que DJ.
Pourtant, c'est quand même un show particulièrement rodé que tu as proposé dans le reportage. Même s'il était fort en dernière minute, il y a quand même toute une mise en place. Donc là, il y a les différents concepts, je pense. Tu aimes bien aller en club où là tu vas vraiment suivre le feeling des gens, mais aussi tu aimes proposer des choses hyper produites où c'est au millimètre près.
Exactement. Tu as tout à fait raison. Mais alors, l'Olympia, c'était vraiment pour moi, c'était une date éphémère. C'est une date qui a eu lieu une seule fois, qui était un résumé des 15 dernières années que je venais de passer, avec une volonté de, quelque part, remercier des gens, m'émanciper de ce que j'avais été quelques années auparavant sur cette même scène, et quelque part aussi créer quelque chose de nouveau. Mais je sais que je ne referai pas cette date. Je sais que je ne referai pas l'Olympia avant un sacré bout de temps. Je sais que dans mes placards, dans ma cuisine, c'est les Zénith qui sont en photo, tu vois. Donc il y a des chances que je ne leur fasse pas avoir un petit bout de temps. Mais quand même, cette volonté de s'émanciper, de se comprendre, quoi. Et je crois que, quelle que soit notre vie, quel que soit notre travail, c'est bien à un moment donné de se regarder dans le miroir et de se dire « est-ce que c'est ce dont j'ai envie ?» C'est quelque chose qui revient souvent dans les couples, dans les relations. Des relations avant les divorces, souvent, les couples qui se déchirent ou qui se posent les questions. Est-ce qu'on est ensemble par habitude? Est-ce qu'on est ensemble pour les enfants? Est-ce qu'on est ensemble parce qu'on s'aime vraiment? Est-ce que l'amour est toujours le même? Moi, je retransmets ça de la même manière dans ma musique.
Un moment avec.
On est ensemble jusqu'à 18h et en bonne compagnie, vu que c'est Mossyman qui nous accompagne. Mais est-ce que vous connaissez vraiment l'artiste? Quand on le voit à côté d'artistes comme McFly et Carlito, ou encore à côté de Patrick Bruel, avec Grand Corps Malade également, puis dans son studio à produire des tracks house et techno, et puis en live parmi les gens, ou sur scène avec un show hyper rodé, il aime vraiment varier le plaisir.
Je prends souvent, c'est drôle parce que c'est une artiste belge, mais je prends souvent Angèle comme exemple quand je parle d'alignement. Il y a des artistes qui mettent des années comme moi à se trouver, des années à savoir dans quelle direction ils ont envie d'aller. Et il y a des artistes comme Angèle qui arrivent à l'âge de 17, 18 ans et qui savent exactement où ils vont, comme s'il y avait une espèce de magie au-delà du compréhensible. Et je suis fasciné par ça. Je suis fasciné par la notion d'alignement et de regard qu'on peut porter sur soi-même. Et elle m'épate. Angèle m'épate sur ce point-là, elle m'épate depuis toujours, depuis ses premières vidéos.
Alors tu parlais aussi dans les vidéos que tu proposes du côté populaire, hein, oui. Que tu assumes totalement. Et c'est vrai que dans des sets, moi je t'ai vu à Spa jouer Claude François par exemple avec Grand Corps Malade. Alors c'est un extrême évidemment, mais c'est pouvoir
c'est
aller.
Surtout un gros challenge de Grand Corps Malade qui m'a mis au défi. Il m'a dit écoute, je viens jouer avec toi, mais tu mets Claude François. J'ai dit bah frérot, quand même pas, c'est pas possible. Et bah bon, moi j'ai mis Claude François, je peux rien lui refuser.
Mais c'est ce côté-là aussi qu'on aime chez toi, parce que tu vas travailler avec des artistes comme Patrick Bruel, comme Grand Corps Malade. T'amènes des surprises également dans tes sets. Tu vas remixer des titres que tout le monde connaît, mais à ta sauce. Donc il y a ce côté aussi proche du public, mais t'aimes le côté underground aussi, quoi. C'est ça aussi que je voulais dire.
Mais je pense pas que ce soit incompatible. Hein. Là, je reviens, à l'heure où je vous parle, de 10 jours à Ibiza, où j'étais dans un camp d'écriture techno, okay. Underground, vraiment un marché de niche, quoi, quelque part, où il n'y avait pas du tout, où c'était beaucoup de bruit, si comme pour reprendre les termes de ma maman, beaucoup de boum boum, quoi. Mais j'ai passé un moment incroyable, et puis aujourd'hui je suis avec vous, puis je vais faire le télévis, et puis je vais certainement chanter avec Patrick, etc. J'aime cette dualité, elle m'a toujours suivi, mais c'est vrai que dans ma musique, je reste quand même fidèle à la musique électronique, quoi.
On va parler du télévis avec le track de tes rêves, ah oui. Que tu vas faire pour le télévis. C'était un moment important de faire ça pour eux aussi.
Bah c'était surtout, ça fait longtemps que je participe au télévis, c'était surtout trouver une manière différente de toucher les gens et de sensibiliser les gens. Et je crois que l'idée du track rêvé, c'est quelque chose que je fais maintenant régulièrement depuis quelques mois, enfin je dis ça régulièrement, on a commencé en début janvier, où je réalise les tracks rêvés des gens, c'est-à-dire que je leur demande de me dire tout ce qu'ils veulent. Par exemple, je prends l'exemple de Grand Corps Malade qui voulait, lui, un titre avec les violons d'Aznavour, la voix de Barbara. Il voulait un flow à la Eminem, il voulait que je mette son beatbox dedans et il voulait que tout ça se soit mixé sur de la funk des années 80. Bon, bah, je vous encourage à aller voir mon Instagram, ce que ça donne. C'est un peu fou, mais du coup, c'est un moyen de me positionner moi en tant que producteur, c'est un moyen de mettre des artistes en avant de la manière dont on n'aurait pas eu idée, tu vois. Et puis, je sais pas, on voit une autre facette des gens, et moi j'aime ça. Et je crois que ce que je vais faire sur le télévis, c'est aussi amener quelque chose de nouveau.
Ce samedi, passez un moment avec.
Excellent samedi avec nous, on le passe en compagnie de Quentin Mossiman. Et la grosse actu pour lui, c'est la diffusion du film Outside the Box, qui retrace les différentes étapes et la mise en forme pour son premier Olympia en tant que DJ. C'était en 2022. Rendez-vous est pris, ce sera le 10 mai du côté du Kinépolis à Liège.
Moi j'appelle ça, c'est un témoignage de vie. Il se trouve que c'est un documentaire, mais je vois vraiment ça comme un témoignage de vie, comme une envie de marquer le temps sans avoir l'idée derrière que c'est un documentaire sur un artiste, etc. Je trouve ça toujours un peu trop ambitieux quand on est à la moitié de sa vie, à la moitié de sa carrière, de faire un reportage, à moins d'être... je reparle d'Angèle, désolé, mais à moins d'être Angèle, il faut que ça ait du sens, il faut que ça ait de la matière, que ce soit un peu concret, quoi. Et moi, j'ai quand même le sentiment de me considérer comme un artiste en développement. J'ai encore beaucoup de choses à accomplir dans ma vie d'artiste. Et donc, c'est un témoignage dans lequel je n'interviens pas de mes proches, des gens avec qui j'ai travaillé, et surtout, c'est le témoignage d'un moment sur la construction du show de l'Olympia. Donc ça parle évidemment un petit peu du passé, parce qu'on a des archives du premier Olympia que j'avais passé, de ce dont on parlait juste avant, où justement j'avais eu ce sentiment de ne pas me sentir à ma place, et on assiste finalement à toute la folie que c'est d'annoncer un Olympia 6 mois avant, et de se retrouver 3 semaines avant le show, sans que rien ne soit prêt. Et ça, c'est complètement inconscient. Parce que l'Olympia est déjà... C'est-à-dire qu'au moment où on m'annonce que l'Olympia est complet, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ce qui est complètement fou. Tout ce que je sais, c'est que j'ai mon décor avec cette fameuse scène centrale, cube centrale qui tourne sur soi-même, et avec ses laboratoires, avec la batterie, les claviers à modélisation analogique, le chant, la batterie, enfin, les platines, etc. Mais je ne sais pas ce que je vais faire. Et je ne vais pas dormir pendant 3 semaines, jusqu'au jour où je vais arriver à l'Olympia et on va me dire que bah, c'est pas possible de faire des répétitions. Donc je vais faire mes répétitions devant les gens, à savoir le show que les gens vont découvrir.
C'est ça qu'on va voir donc. Et tu seras là pour le présenter donc le 10?
Absolument, je serai là à Bruxelles, je serai là à Liège, je serai là à Braine-l'Alleud je crois, si je ne m'abuse, j'ai plus les dates en tête. Mais c'est vrai que tout ce qui se passe avant le 11 mai, pendant les trois jours précédant le 11 mai pour la soirée à Liège au Réflecteur, je suis présent dans les cinémas pour discuter avec les gens, pour faire la fête aussi, parce que chez nos voisins du nord de la France, il y a eu les gens qui sont sortis de leur siège, qui se sont éclatés, parce qu'on diffuse le documentaire, évidemment, juste après le live enregistré à l'Olympia.
Vivez un moment avec sur Maximum.